Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs, édition 8 octobre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
On a un mois d'octobre qui débute très bien, malgré qu'hier, c'était une journée négative en bourse. C'était la première depuis 7 séances. Donc, quand même, là, ça va assez bien en général. Le TSX en hausse de 1,1 cette semaine. Le S&P 500 en hausse de 0,4. Le Nasdaq 0,6. L'indice MSCI, Europe, Australie, Asie en hausse de 1,4. Donc, tout va bien. J'ai fait un petit retour en arrière aussi. La semaine passée, là, je mentionnais une espèce de bulle dans l'IA, peut-être. Puis je me suis souvenu d'une phrase d'Alan Greenspan, Irrational Exuberance. Là, il parlait de l'exubérance irrationnelle des marchés. Puis là, tu sais, ça annonçait là, la chute. Ça, il a dit ça le 5 décembre 1996. Donc, on était quand même à 4 ans de l'éclatement de la bulle. Donc, ça a un peu mis en contexte. Honnêtement, je pensais que c'était plus comme 98-19. Donc, j'ai été surpris là, que c'était si longtemps avant l'éclatement de la bulle. Comme quoi, les marchés peuvent être un peu en ébullition. Ça peut quand même durer un bon bout de temps. Et donc, de dire, ben, je vais me retirer, je vais mettre ces lignes de côté. Tu sais, si on avait manqué 4 ans d'excellent rendement en 96, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée à ce moment-là. Fait que, chose à garder en tête. Plusieurs titres ont fait des nouveaux sommets que nos clients détiennent, entre autres Northland Power, là, que c'est un titre qui a frustré beaucoup d'investisseurs dans les dernières années, là, mais cette année va très, très bien. Nouveau sommet, Power Corp, sommet historique. Il y a aussi l'or, on n'en parle pas tellement, on n'a pas de position là, de détention directe dans l'or beaucoup, mais à l'intérieur des fonds communs de placement, souvent on va retrouver des titres orifères. L'or a franchi le cap des 4 000 $ l'once aujourd'hui. J'ai fait aussi un petit retour en arrière pour voir, ben, hey, 1 000 $ l'once, là, c'est arrivé quand, ça, la première fois que l'or valait 1 000 $ l'once, en janvier 2009. Ben, combien valait, donc, tu sais, ça aurait été un excellent rendement d'acheter de l'or en 2009. Combien valait le S&P 500 en janvier 2009? 825. Hier, on a fermé à 6 715. Donc, l'or a monté 4 fois, mais le S&P 500 a monté 8 fois. Donc, il y a quand même peut-être d'acheter des bonnes entreprises qui font des profits, qui payent des dividendes, puis de les garder à long terme. C'est encore probablement la meilleure recette pour augmenter la richesse au fil du temps. Et le dernier petit point que je voulais mentionner, bon, on a le government shutdown. Là, donc, le gouvernement aux États-Unis, là, ils ont fermé certains services jugés non essentiels. C'est surtout non essentiel quand c'est sur des terrains démocrates. Là, mais bon, ça, c'est un commentaire politique qu'on va laisser de côté. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un government shutdown comme ça? En fait, pas grand-chose sur les marchés. C'est pas un événement qui est si significatif. Bien souvent, les bourses font plus ou moins rien durant cette période-là, mais le rendement est très positif les 6 mois suivants. Le plus long shutdown a eu lieu en 2018. C'était qui le président déjà en 2018?
Trump.
Ça a duré 23 jours. Donc, on est quoi à la 7e-8e journée là, du government shutdown. Pour l'instant, les marchés ignorent la situation. Ce n'est pas tellement significatif, du moins pour l'instant, mais on garde évidemment un œil là-dessus si jamais ça devait s'envenimer.
Ben, merci beaucoup, Martin. Je ne sais pas si tu le savais, mais le 1er octobre est reconnu comme la Journée internationale des personnes âgées par les Nations unies depuis 1990. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est une collègue qui me l'a dit. Cette journée vise à sensibiliser aux enjeux liés au vieillissement, à promouvoir les droits des aînés et à valoriser leur contribution à la société. Pour reconnaître cette journée et parce qu'on a pu avoir notre invité aujourd'hui et pas le 1er octobre, nous allons parler des mesures fiscales pour les 65 ans et plus. Et je dis pas que vous êtes un aîné parce que vous avez 65 ans et plus. Puis je pense qu'il faut être fier aussi d'être arrivé là dans sa vie. La réalité est que la démographie change. Même si les milléniaux et les générations Z sont désormais plus nombreux que les baby boomers, les personnes âgées de 65 ans et plus représente encore une proportion significative de la population. Et elle pourrait constituer en 2031 plus d'un quart de la population. Donc, c'est quand même, je pense, notre balado intéresse plusieurs personnes. Avec l'augmentation surtout de l'espérance de vie et la volonté de plusieurs de rester actifs plus longtemps, il est vraiment essentiel de comprendre les outils fiscaux qui existent pour alléger le fardeau fiscal et optimiser les revenus de la retraite parce qu'on peut être à la retraite plus longtemps qu'on a travaillé. Donc, nous avons invité notre collègue Caroline Marion, conseillère principale développement des affaires et rayonnement, services fiduciaires aux particuliers pour explorer ce sujet avec nous. On est vraiment choyés. Elle est tellement bonne, Caroline. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour tout le monde.
Donc, nous allons commencer avec la question qui suscite quand même beaucoup d'intérêt par nos clients. Avant la retraite, surtout, on pose plus de questions. Et à la retraite, on commence à en être conscient, mais je pense que ça vaut la peine de le savoir avant. Qu'est-ce que le fractionnement de revenus? Quels sont les avantages et les conditions?
Le fractionnement de revenus, en fait, c'est un grand mot pour venir dire quoi exactement. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire notre revenu personnel quand on est à revenu élevé pour augmenter celui d'un conjoint qui, lui, serait à revenu un peu plus faible. Donc, on essaie de transférer une partie de notre revenu à notre conjoint. L'objectif étant qu'on sait que nos tables d'imposition sont des paliers. Donc, on monte un escalier. Plus on a de revenus, plus on paie un taux d'impôt moyen élevé. Donc, si moi, je réussis à ne pas m'imposer sur un revenu et que mon conjoint a un revenu plus faible que moi et que j'ajoute ce revenu-là à son revenu, bien, dans certaines circonstances, on va faire une économie fiscale pour le couple qui peut être assez substantielle. Le gouvernement reconnaît la possibilité de faire du fractionnement de revenus de façon légale et même encadrée grâce au fractionnement de revenus de pension. Et le fractionnement de revenus de pension, ça s'applique à partir de l'âge de 65 ans pour la très grande majorité des revenus. Ce n'est pas les deux conjoints qui ont besoin d'avoir 65 ans. Un seul des deux conjoints a 65 ans, il va pouvoir fractionner avec son conjoint. Et essentiellement, on va pouvoir fractionner les mêmes revenus que ceux qui sont admissibles au crédit d'impôt pour revenus de retraite. Qu'est-ce qu'on veut dire par là concrètement? Des entrées de fonds d'un fonds de pension. Donc, si je reçois une rente d'un employeur, c'est quelque chose qui est fractionnable. Un retrait faire. Je vais pouvoir fractionner mon retrait FER. Attention, un retrait REER, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment important que ce soit un retrait du FER pour pouvoir fractionner. Les pensions comme la pension de sécurité de la vieillesse, la Régie des rentes du Québec, ce n'est pas fractionnable, même si c'est des revenus de pension. Donc, ces deux pensions-là, je ne peux pas les fractionner. Par contre, je peux demander la division de la rente de retraite du régime de rente du Québec quand je suis conjoint de fait ou marié. Et conséquemment, je pourrais demander, dans le fond, de séparer l'argent à la source chez Retraite Québec pour qu'on se fasse verser des prestations équivalentes. Peut-être deux mots sur le fait qu'aussi, il est possible pour les entrepreneurs qui auraient une société de gestion et dans lesquelles le conjoint aurait des actions, il est possible de faire aussi de la distribution de dividendes par l'entremise de la société de gestion en faveur du conjoint après l'âge de 65 ans. Donc, à partir de ce moment-là, pour être un peu équitable, si on veut, entre les travailleurs et les entrepreneurs, on a permis le fractionnement à travers les sociétés de gestion pour le conjoint à compter de 65 ans.
Puis je veux juste clarifier un point parce que souvent nos clients, puis tu sais, ma mère, là, elle a dit, ben là, je veux pas donner la moitié de mon argent à ton père. C'est pas, on donne pas le revenu, on donne la facture fiscale de notre revenu, si on veut, right?
Tu as tout à fait raison. En fait, c'est un choix fiscal sur un formulaire. Donc, il n'y a pas de transfert d'argent qui s'effectue dans le fractionnement de revenus de pension. Par contre, la division de la rente de retraite de la Régie des rentes, oui, c'est vraiment un transfert monétaire. C'est réversible comme décision aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'une fois que je suis pris dans ça, je ne peux pas m'en ressortir. On peut même par formulaire revenir sur notre point de vue si jamais ça ne nous plaît pas, dans le fond, qu'il y ait une partie de notre rente de retraite qui soit versée directement au conjoint. Mais le fractionnement de revenus de pension, c'est vraiment un choix fiscal, c'est un choix annuel. Je pourrais décider une année de le faire, une année de ne pas le faire. Ça me prend la signature du conjoint qui va recevoir le montant d'argent, bien entendu, dans sa déclaration d'impôt, donc pas fiscalement. Et puis, dans un monde idéal, je vais au moins lui verser le montant d'impôt supplémentaire qu'il va payer à cause de ça,
C'est ça,
là.
exact. Ouais, dans un monde idéal.
Ben, disons que l'année prochaine, ça se peut que ça soit plus difficile d'avoir sa signature s'il se met à payer de l'impôt sur un revenu qu'il n'y a pas, puis que je veux recommencer l'expérience l'année suivante.
Faites-le avec amour. Est-ce que tu peux nous parler de crédit d'impôt clé lorsqu'on a plus de 65 ans?
Oui, ben il y en a vraiment plusieurs. Et puis, honnêtement, je vais essayer de rendre ça quand même agréable à ta tâche. Parce que s'il y a quelque chose qui peut être assez drabe, disons que c'est les crédits d'impôt. Mais il y en a quand même une multitude là, qui peuvent s'appliquer pour les gens de 65 ans et plus, à commencer par le crédit d'impôt en raison de l'âge. Donc, c'est le premier. Essentiellement, dès que j'atteins l'âge de 65 ans, je peux commencer à le demander. On a parlé brièvement du crédit d'impôt pour revenus de pension. J'ai dit que c'était à partir de ces revenus-là qu'on déterminait qu'est-ce qui était fractionnable. Donc, une valeur de montant de 2 000 $, mais avec le taux des crédits. Comment je pourrais expliquer ça en deux mots? Un crédit d'impôt, dans le fond, la première des choses qu'il faut savoir, même s'il y en a beaucoup, un crédit d'impôt, de façon générale, ça sert à réduire l'impôt qui est payable. Fait que si j'ai pas d'impôt à payer, ben souvent mon crédit d'impôt me sert à absolument rien. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les crédits d'impôt sont basés sur des pourcentages qui sont généralement le taux d'imposition moyen ou le taux d'imposition le plus faible. Ce qui fait que si on me dit, par exemple, que sur un revenu de retraite de 2 000 $, j'ai un crédit d'impôt sur un premier 2 000 $ de revenu de retraite, bien, si j'ai des bons revenus puis que je t'ai imposé un taux d'imposition de 35, 36 %, 40 %, mais que le crédit d'impôt, lui, s'applique à 32, ben, j'ai pas une économie parfaite d'impôts au niveau du crédit. Cela dit, c'est quand même intéressant pour le premier 2 000 $ de revenus de retraite. Ça veut donc dire que ça vaudrait la peine, à compter de 65 ans, de toujours au moins faire un retrait faire de 2 000 $ par année, par exemple, pour aller s'assurer de profiter pleinement du crédit d'impôt. De la même façon, il y a une multitude, je disais, de crédits d'impôt qui s'ajoutent à ça plus on avance en âge. Le premier d'entre eux, ça serait peut-être le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Je veux parler de celui-là en particulier parce que c'est un crédit d'impôt qui est extrêmement généreux et on se surprend parfois du genre de dépenses qui peuvent être admissibles à ce crédit-là. C'est un crédit au Québec seulement. C'est un crédit qui s'adresse aux gens qui ont 70 ans et plus. Donc, c'est plus 65, c'est 70. Et essentiellement, c'est pour toutes les dépenses qui sont nécessaires pour un maintien à domicile. Donc, si je demeure dans mon appartement, je demeure dans la maison dans laquelle j'habitais, je vais pouvoir aller chercher un crédit d'impôt sur les dépenses que je paye pour me permettre de rester à la maison, dont par exemple un déneigeur. Parce que j'ai moins la force là, pour faire du pelletage à tous les hivers. Ça peut être de l'entretien ménager, ça peut être de l'entretien de la pelouse, puis des jardins, ça peut être un service de livraison de repas à domicile pour me permettre à ce moment-là cette flexibilité-là ou cette obligation, m'enlever cette obligation de faire des repas tous les jours. Donc, essentiellement, ça peut être un paquet de dépenses comme ça. Et le crédit d'impôt, particularité, il est remboursable. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que même si je n'ai pas d'impôt à payer, je peux bénéficier du crédit d'impôt en fonction des dépenses que j'ai faites. Et c'est même un crédit d'impôt qui peut être versé par anticipation, ce qui veut dire que je peux même le recevoir d'avance. Donc, à partir du moment où j'ai des dépenses admissibles, la première fois que je vais le demander, après ça, on va séparer le montant du crédit d'impôt auquel j'aurai droit pour une année en 12, puis on va me verser mensuellement un crédit d'impôt d'avance en fonction des dépenses que je devrais m'apprêter à faire l'année suivante. Ça veut donc dire que ça peut me permettre d'avoir les liquidités requises pour payer, par exemple, l'entretien ménager que je voulais faire faire, mais que je me dis, ouf, tu sais, c'est peut-être un trou dans mon budget trop rapide. De cette façon-là, je peux m'en servir. Sinon, outre ce crédit d'impôt fort avantageux, il y en a quand même quelques autres aussi notables. Il y a un crédit d'impôt fédéral pour l'accessibilité domiciliaire. Donc, ça, c'est un crédit d'impôt pour une dépense particulière que j'aurais fait dans le but justement de rendre mon logement plus accessible en raison d'une perte de mobilité, par exemple. On ne parle pas nécessairement d'un handicap, hein? Ça peut être une baignoire aussi
Avec une
qui me
porte,
permet,
là,
dans le fond,
ouais.
avec une porte, là, fait que c'est une des stratégies, ça peut être celle-là. Ensuite, excuse-moi, je prends ma liste.
Il y en a
J'avais
beaucoup.
celle-là.
Il reste le soutien aux aînés, là, qui est dans...
Attends une petite seconde. Évidemment, une autre chose qu'on nommait souvent, là, c'est de parler du crédit d'impôt pour frais médicaux. Crédit d'impôt pour frais médicaux qui me permet, dans le fond, d'aller chercher toutes les dépenses familiales en termes de frais médicaux, frais de dentiste, certains soins aussi de massothérapie, ergothérapie, et ainsi de suite. Donc, toutes les dépenses payées à cet égard-là, on les rassemble sur la déclaration d'impôt de la personne qui, généralement, fait le plus faible revenu pour pouvoir aller chercher le crédit. Ça peut être substantiel, les montants auxquels on peut avoir droit en termes de crédit d'impôt pour frais médicaux également. Puis, on ne parle pas nécessairement là, d'inaptitude rendue là, là. On est vraiment juste dans le crédit d'impôt pour toutes sortes de frais médicaux qui s'adressent à tous âges, à toutes les personnes qui y sont admissible.
Ben, je pense,
J'ai.
est-ce que tu en as d'autres, Caroline? Ou ça, parce on pourrait les lister toute la journée, je pense, mais ça fait quand même un bon topo pour les clients. Puis je vais dire aux clients, faites-nous signe, on a accès à Caroline de toute façon si on a des questions pour elle au sujet des crédits. Mais merci, tu l'as rendu quand même intéressant. Quelles sont les nouveautés pour 2025? Toi et moi, on en avait discuté, puis tu m'avais dit, ah, c'est une nouveauté, le crédit pour la prolongation de carrière, mais c'est pas aussi bon qu'on aurait pensé.
Ben, en fait, ce crédit-là, il existait déjà, le
Ouais.
crédit pour un maintien en emploi ou maintien de carrière. Il était basé sur un revenu maximal de 5 000 $. Et là, quand il y a eu le changement, dans le budget, on est venu nous annoncer que ça allait être sur un revenu maximal de 7 500. Donc, à première vue, c'était quelque chose qui était comme super intéressant parce qu'on venait, dans le fond, d'augmenter le montant du revenu sur lequel on allait appliquer le crédit. Le mauvais côté de la chose, c'est qu'on est venu réduire les critères d'admissibilité, fait qu'il y a encore moins de gens qui sont admissibles que ceux qui l'étaient avant. Ce qui veut donc dire que c'est pas nécessaire, c'est une fausse bonne nouvelle au niveau de ce crédit-là. Donc, si vous y aviez droit l'an passé, vous y avez probablement plus droit à partir de 2025 dans la majorité des cas, hélas. Donc, c'est une
Donc, on
des
donne de la main gauche et on reprend de la main droite.
un petit peu dans certains cas. Ça va être à surveiller aussi en termes de nouveautés, le fait qu'il y a un budget fédéral qui va être déposé le 4 novembre prochain, donc ça vaut probablement la peine là, de s'y attarder. On risque d'avoir des surprises, d'autant plus que le gouvernement aura pris beaucoup, beaucoup de mois à préparer ce budget. Mais je dis souvent aussi qu'il faut faire attention. Les mesures fiscales, c'est une chose dans un budget. C'est surtout un budget économique. Donc, ces aspects-là, les mesures fiscales, ça se peut qu'ils soient déjà réfléchis depuis longtemps puis qu'il n'y ait pas de surprise tant que ça à l'intérieur du budget. Mais on a quand même beaucoup d'espoir pour certaines mesures qu'on nous avait déjà annoncées, mais qui sont mortes au feuilleton.
Ben, puis c'est parfait. Je pense que tu vas revenir nous en parler au mois de novembre. On s'est pris une date, toi et moi, Caroline. Donc, merci beaucoup, Caroline. En résumé, il existe plusieurs mesures pour réduire votre fa facture fiscale après 65 ans, qui est une super bonne chose. Chaque situation est unique, donc n'hésitez pas à nous consulter ou à consulter votre comptable pour maximiser vos avantages. À nos clients et partenaires, si vous avez des questions pour les sujets abordés aujourd'hui ou sur vos objectifs financiers, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour vous accompagner. Nous prendrons une petite pause de notre balado la semaine prochaine pour l'Action de grâce et nous serons de retour la semaine d'après. Merci beaucoup pour votre écoute.